When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm. Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin 2013 et c'est l'épisode numéro 112. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on prend toutes les informations tech, internet et gadgets et où on les mélange et on en ressort une sorte de substantifique moelle que vous pourrez comprendre et digérer aisément, même si vous n'êtes pas un as de l'information tech. J'aime bien le terme substantifique moelle, donc je l'utilise de temps en temps. Je suis Patrick Béja, votre hôte, et je suis avec Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley en Californie. Comment vas-tu, Jeff Clavier?
Ça va très bien, merci. Et c'est vrai que substantifique moelle est une expression qui est extrêmement agréable à prononcer. Donc, un substantifique bonjour de la Silicon Valley à tous et à toutes.
J'espère que tu vas bien, que tu n'es pas trop occupé, même si je sais que tu l'es quand même pas mal.
Je vais pas mentir, là c'est complètement fou entre les différentes boîtes du portefeuille, le deal flow que l'on reçoit, tout ce qui se passe dans notre industrie, on est un peu charrette, mais c'est toujours un plaisir de te rejoindre pour le rendez-vous tech. Donc on va essayer de faire un peu court, mais très bien.
Je dis plus ça en fait. Je sais que l'info n'est pas extrêmement active depuis 2 semaines, donc on a des petits sujets quand même intéressants. Mais je pense que ça risque d'être un peu plus court que d'habitude, mais je veux pas le dire parce que c'est systématiquement pas le cas quand je le dis. Donc je vais pas
commencer.
écoute, lançons-nous. Il y a deux informations principales qui sont pas énormes, mais qu'on va détailler quand même un petit peu. Des informations sur Windows 8.1 qui a enfin été officialisé par Microsoft, et quelques informations sur la potentielle évasion fiscale d'Apple, pour laquelle le Sénat américain fait une enquête depuis quelques temps et qui a donné lieu à une audition de Tim Cook il y a environ une dizaine de jours. Donc on a des informations à vous donner là-dessus aussi. Pour Windows 8.1, je pense que ça va pas forcément intéresser Jeff énormément, puisque toi, tu es toujours sous Windows 7, n'est-ce pas? Et tu es pas hyper fan de Windows 8.
Alors, j'ai pas vraiment de point de vue, parce que j'ai acheté Windows 8, j'ai essayé de l'installer sur ma machine, qui est un Asus théoriquement suffisamment puissant, et Windows 8 a refusé de booter après 2h30 d'installation et de transfert, etc. J'ai essayé 2 fois, et en gros, quand j'ai appelé Asus, ils m'ont dit en fait, achète une nouvelle machine avec Windows 8 et ça marchera bien.
D'accord.
Et donc voilà quoi.
Bon, donc tu as fait l'impasse sur Windows 8. Moi, j'ai Windows 8 sur mon Mac en dual boot, et j'en suis plutôt content, et je vais avoir encore plus de Windows 8-ry très bientôt, puisque j'ai acquis un SSD. Je lorgne sur les SSD. Pour les gens qui savent pas, les SSD sont des disques durs qui sont faits uniquement de mémoire RAM, enfin pas RAM, mais bon, de la mémoire solide, comme un iPad ou un iPhone ou ce genre de choses. Et c'est évidemment beaucoup plus rapide qu'un disque dur à plateau, à disque physique avec une tête de lecture, etc. Et ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'un disque physique, mais j'ai surveillé les prix depuis des années, et j'en voulais un suffisamment grand pour que je puisse tout mettre dessus, ou en tout cas une énorme partie de mes données et de mes programmes. Et aujourd'hui, les derniers Samsung sont à environ 300€ pour des disques de 500Go. Donc j'ai craqué, et ça va être une énorme mise à jour pour ma machine qui commence à dater un petit peu. Et donc, je vais l'installer, je vais avoir Windows 8 dessus en machine principale. Tout ça pour dire, bon, je vous donnerai mes mes retours là-dessus dans un prochain épisode, mais je suis très très excité à l'idée d'avoir mon petit SSD. Mais tout ça pour dire que Windows 8 est quand même le sujet de pas mal de controverses. Il y a des gens qui l'aiment bien et il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout pour des raisons qui, moi, me paraissent extrêmement superficielles. Des choses comme il n'y a pas de bouton Start et notre menu Start a disparu et il a été remplacé par cet écran Start qu'on n'aime pas. On ne peut pas booter directement sur le desktop, on ne peut pas démarrer la machine et arriver directement sur le bureau, il faut passer par l'écran Start justement. Et tous ces petits défauts, qui à mon sens, encore une fois, sont assez minimes, vont être en théorie, même pas en théorie, ça a été confirmé, corrigés avec Windows 8.1. Alors, ça ne corrige pas, ou en tout cas, ça ne change pas le fait que Windows 8 reste un système d'exploitation qui est conçu comme système hybride, qui est fait à la fois pour les interfaces tactiles et les interfaces classiques clavier-souris, et ce mélange, selon, encore une fois, certaines personnes qui sont mécontents de Windows 8, ne se fait pas en émulsion supérieure, mais plutôt en gardant les mauvais côtés des deux univers. Et Windows 8.1, en tout cas, va corriger ces petits défauts qui reviennent régulièrement et on va voir si ça va suffire à convaincre les plus récalcitrants. Alors, il y a beaucoup de sans refaire toute l'histoire sur Windows 8, pour moi, il y a effectivement un petit peu de, je vais pas dire d'hypocrisie, mais en tout cas de paresse intellectuelle chez les utilisateurs, parce que quand je parle de Windows 8, il y a beaucoup de gens qui me disent non, c'est pas intuitif, ça marche pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et les deux choses dont ils me parlent quand je leur demande, ok, mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Windows 8, ils me disent bah je veux mon bouton Start. Et là, je dis vraiment, enfin, le bouton Start, c'est un détail, quoi. Mais en même temps, moi, j'aimais bien Windows Vista, qui est la sorte de monstre. Non, mais écoute, Windows Vista, il faut se souvenir, il était lourd, il était lent, c'est vrai, mais il était quand même, il venait après Windows XP. Et quand on regarde aujourd'hui avec le recul, Windows XP ou Windows Vista, je suis désolé, Windows Vista était quand même, avait quand même des apports extrêmement importants. Et d'ailleurs, preuve en est que Windows 7 n'était que un Windows Vista un tout petit peu retouché et plus rapide. Donc, il y a cette réaction un petit peu épidermique face à certaines mises à jour de Microsoft que moi, j'avoue, je comprends pas très bien. Bref. Ces petites informations passées tout de même en avant, on va passer en revue les changements que vous pouvez attendre avec Windows 8 et peut-être pour vous donner envie, pour vous dire, ça sera avec Windows 8.1 que vous allez enfin pouvoir passer en confiance à Windows 8 si vous étiez un petit peu récalcitrant. Alors évidemment, comme on le disait, les deux changements principaux, c'est qu'on peut lancer la machine directement sur le bureau. On n'a plus besoin de passer par l'écran Start. Et l'autre changement, c'est qu'il y a un bouton Start. Mais le bouton Start ne vous ramène pas votre ancien menu Start. Il vous affiche simplement l'écran Start dans son intégralité. Par contre, une petite modification d'interface qui peut être importante, mine de rien, c'est que même quand on affiche l'écran Start, il y a le fond d'écran de votre bureau qui reste affiché. Donc ça, la transition est plus douce. Peut-être que ça plaira plus à certains utilisateurs. Donc là, on a les deux changements quasiment principaux. Des changements d'interface qui font que on pourra depuis l'écran loqué, ah, j'en perds mon français, depuis l'écran d'accueil de l'interface avant d'avoir rentré son mot de passe, avoir un peu plus d'informations sur l'écran. On pourra aussi utiliser la webcam ou la caméra de l'appareil, que ça soit un PC de bureau ou un PC portable, une tablette. Et là, c'est important bien sûr pour faire des photos, mais c'est important aussi si on a un appel Skype, par exemple. On sait que Microsoft a rappelé Skype, on pourra utiliser, répondre à Skype directement. Sur le côté interface tactile, interface moderne, on pourra mettre, vous savez, il y avait cette manière d'avoir deux applications en même temps à l'écran qui était le Snap. Donc on avait un tiers de l'écran qui était, ou un quart de l'écran qui était réservé à une application qui était un petit peu plus petite, et puis le reste à une autre. On pourra maintenant avoir moitié-moitié, ou même trois, voire quatre applications en même temps à l'écran, en fonction de la taille de l'écran. Et ça, c'est important, bien sûr, d'une part, parce que les plus petits écrans pourront aujourd'hui avoir deux applications en même temps. Je vous rappelle que ça concerne aussi Windows RT, donc qui est spécifiquement prévu pour les tablettes. Et pour les écrans plus grands, on pourra avoir trois, quatre applications en même temps. Ça peut être une utilisation intéressante. D'autres choses, la recherche va être très profondément intégrée à Windows 8, c'est-à-dire que quand on fera une recherche avec où la touche Windows est S, ou alors depuis, si je ne m'abuse, l'écran Start, qui pour moi est excellent, hein. L'écran Start, on avait déjà, on se met sur l'écran Start, on commence à taper quelque chose et on a immédiatement les résultats de la recherche qui s'affichent. On n'a pas besoin d'aller chercher une recherche, d'aller cliquer quelque part, c'est immédiat, c'est vraiment très pratique. Et donc, les résultats de cette recherche se feront non seulement sur les fichiers de l'ordinateur et sur les programmes, mais aussi sur Internet, c'est-à-dire que Bing vous donnera des résultats un petit peu similaires à ce que fait aujourd'hui Google, voire même Siri, à ce qu'essaye de faire Siri, c'est-à-dire que par exemple, si on fait une recherche sur une personne, on va avoir des résultats de recherche qui vous donneront les informations sur la personne, bien sûr, généralement récupérées de Wikipédia, hein, on imagine. Et si on a, donc on n'aura pas besoin de lancer son navigateur Internet. Souvent, on se pose une question sur quelque chose, on lance le navigateur Internet juste pour faire une recherche et puis on va sur Wikipédia. C'est pour ça que Google vous présente des résultats de recherche très bien mis en forme. Et ben là, ça sera directement intégré à Windows, ce genre de choses. Il y a SkyDrive qui sera entièrement intégré au système Windows, c'est-à-dire que la solution cloud de Microsoft sera entièrement intégrée au système de fichiers. Donc si vous mettez vos fichiers sur SkyDrive, pour toutes les applications, ils seront directement accessibles comme si c'était un fichier qui était sur votre disque dur. Ce genre de choses. D'autres petites améliorations, comme certaines applications améliorées, certaines nouvelles applications. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, dans ces détails-là. Mais bon, c'est tout, vous l'aurez compris, c'est une série de plein de petites modifications qui, à mon sens, améliorent un petit peu l'utilisabilité, je ne sais même pas si c'est un mot français, de Windows 8, mais surtout, va donner aux détracteurs, à mon avis, hein, c'est comme ça que je le vois, mais à mon avis, va donner aux détracteurs une excuse pour se dire « Ah oui, Windows 8, c'était pourri, mais bon !» Maintenant, Windows 8.1, ok, c'est utilisable, j'accepte. Alors qu'en fait, les choses n'auront pas énormément changé. Le fait de démarrer sur le bureau, par exemple, si on fait la différence entre Windows 8 et Windows 8.1, le fait d'aller sur le bureau, c'est un clic. Donc, ça m'étonnerait vraiment qu'un clic justifie autant de fureur de la part des détracteurs. Mais bon, voilà un petit peu le tableau peint de Windows 8.1. Bon, Jeff, toi, je sais que t'es pas hyper enthousiaste ni hyper pressé d'aller sur Windows 8.
Non, c'est pas vrai. Si j'avais eu l'opportunité de, je pense que la vraie façon de répondre à ta question, c'est non, je ne vais pas acheter une machine juste histoire de passer sous Windows 8, mais si j'avais eu l'opportunité de faire tourner Windows 8 sur mon PC qui je pense aurait bien fait tourner, ça m'aurait intéressé de voir un peu ce que Microsoft avait fait, puisque l'unification de l'interface mobile et PC est quelque chose d'intéressant. J'ai joué un peu avec sur un PC tactile qu'on m'a fait essayer. Bon, c'est sympa. Faut effectivement se faire au concept de bah tiens, j'ai pas mon start button. Mais ouais. Bon, comme j'utilise un Mac à côté, c'est pas si gênant que ça pour moi.
Ouais, surtout que le start button, il existe déjà. Quand tu vas dans le coin où est le start button, tu arrives à l'écran d'accueil. Et l'écran d'accueil, c'est le menu, l'écran Home, l'écran Start, c'est le menu Start en quelque sorte, mais un petit peu étendu. Donc, bref. J'encourage vraiment les utilisateurs, les auditeurs qui utilisent Windows 8, qui l'aiment. Bon, si vous l'aimez, je pense qu'on sait pourquoi vous aimez bien Windows 8. Je serais vraiment curieux d'entendre les raisons qui font que vous n'appréciez pas tellement Windows 8. Et peut-être nous dire si ces petits changements qui vont arriver avec Windows 8.1 vous convaincront que c'est un OS plus intéressant que vous ne pensiez, ou en tout cas corrigeront les erreurs qui vous horripilent. Vraiment, je suis intéressé de savoir ce qui ne va pas du tout avec Windows 8, parce que moi, j'ai posé la question, j'ai recherché, je comprends pas vraiment. Bref, voilà pour Windows 8. Moi, j'ai hâte donc d'avoir mon petit SSD. J'aurai Windows 8 pendant un moment et puis j'installerai Windows 8.1 quand il sera sorti. Ça devrait arriver. On pense cet été, peut-être les premières previews dans pas trop longtemps. Il y a une conférence, j'ai oublié laquelle c'est, mais elle devrait être disponible dans quelques semaines et puis une preview plus générale assez vite après ça.
C'est donc, la conférence développeur, non ?
Qui oui, a lieu c'est, dans c'est quelques... ça. Mais... J'ai un truc
je dans genre ouais, c'est dans 2-3 semaines en mois de juin. Ouais. Ouais. Et je peux ça. Te dire que le SSD va changer ta vie, c'est vraiment génial.
Ah oui, non mais ça je le sais. Ça, je le sais et je l'attends, quoi. Toi, tu, j'imagine que t'es sur SSD depuis un moment.
Je pense que bah, déjà quand tu as un MacBook Air, tu passes sur SSD en direct. Et je pense que j'ai acheté mon premier SSD il y a peut-être 2 ans. Enfin, mon PC est en SSD et j'avais un MacBook Pro en SSD, je crois. Quand je suis passé en unibody, j'ai fait le grand saut.
Ouais.
Le grand saut. À l'époque, ça coûtait très cher, donc j'avais pris un plus petit disque, donc un disque de 500 Go, et franchement, ça vaut largement le coup, quoi.
Ouais. On est d'accord. Bon, deuxième sujet à aborder un petit peu plus longuement que les sujets suivants, c'est un sujet que j'ai intitulé « Les joies de l'évasion fiscale ». On avait parlé des problèmes d'évasion fiscale qu'on évoquait dans le gouvernement et ailleurs à propos des géants de la tech et d'Internet en France et en Europe. Alors, on va pas spécifiquement revenir sur ces sujets qu'on a déjà traités, mais par contre, on va vous parler de Apple, qui, comme on le disait en introduction, a été sujet d'une enquête du Sénat américain pour des questions d'évasion fiscale, savoir s'il faisait de l'évasion fiscale, et si oui, quelle était la nature de cette évasion fiscale. Et alors, moi, je l'ai compris d'une manière, j'ai foirefouillé un petit peu, j'ai essayé de me renseigner sur le sujet, et je l'ai compris d'une manière qui, je pense, est très éloigné de la manière dont l'ont compris nos vénérables camarades du Sénat. Tu vas me dire, Jeff, si j'ai bien saisi la chose et si on partage ce sentiment aux États-Unis. Alors, le problème qui est évoqué aux États-Unis, c'est que Apple fait beaucoup d'argent aux États-Unis, bien sûr, et fait aussi beaucoup d'argent, notamment en Europe, à l'étranger, mais notamment en Europe. Et comme on le sait, Apple a énormément d'argent à la banque en Europe également, et c'est de l'argent qu'il ne ramène pas aux États-Unis, parce que s'il le ramenait aux États-Unis, il devrait payer des taxes qu'ils ne veulent pas payer. Et donc, le Sénat dit, c'est une société américaine, vous concevez vos produits aux États-Unis et l'argent que vous avez à l'étranger, vous devriez payer des taxes dessus. Jusque-là, j'ai pas dit de bêtises, n'est-ce pas?
Yep.
Ok. Et le problème que je vois dans ce raisonnement, c'est que en réalité, Apple n'est pas simplement une société américaine. Il y a plusieurs sociétés, dont certaines sont domiciliés en Europe, en l'occurrence en Irlande, qui offre, comme on le sait, un régime fiscal avantageux aux entreprises. Et donc, la partie de l'argent que fait Apple qui est en Europe, c'est de l'argent qui a été fait en Europe. Alors, moi, mon analyse de la chose, c'est que oui, effectivement, Apple devrait payer des taxes sur cet argent. Mais c'est pas des taxes qui devraient aller aux États-Unis, c'est de l'argent qui devrait aller en Europe pour les pays européens dans lesquels Apple fait son business. En l'occurrence, si c'est l'Irlande, ça devrait être l'Irlande. Si c'est la France, ça devrait être la France. Et d'ailleurs, on sait que Apple va devoir payer, ou en tout cas a été condamné à payer des taxes pour la copie privée qu'il n'avait pas payée pendant plusieurs années et qu'il combatte cette histoire. Mais il devrait payer 5 millions d'euros, c'est les dernières nouvelles. Mais toujours est-il que il y a en fait deux sociétés, une société pour ce sujet-là, une société américaine, une société irlandaise. Les deux contribuent à financer la recherche et développement d'Apple, et ensuite les ventes sont évidemment faites dans les deux entités différentes. Et l'argent qui est aux États-Unis est aux États-Unis, l'argent qui est en Europe est en Europe. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait que Apple devrait être obligé de rapatrier son argent aux États-Unis et payer des taxes dessus. Ce sur quoi je suis d'accord, c'est le fait que Apple devrait payer ses taxes en Europe. Si c'est pas le cas, il faudrait qu'il les paye, mais en Europe. Et ensuite, on revient à la question de est-ce que l'Irlande a fait des tarifs préférentiels à Apple des deals avantageux à Apple pour la question des taxes, ce qu'il réfute. Et on revient aussi à la question de les taxes pour les entreprises sont beaucoup moins importantes en Irlande et dans d'autres pays européens, ce qui crée un déséquilibre fiscal qui fait que certaines sociétés utilisent et parfois, on a eu des histoires avec Google, pas de manière tout à fait réglo. Mais bon, ça, c'est des questions ensuite juridiques qu'il faut régler localement. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, cet argent n'a pas vraiment de raison de rentrer aux États-Unis, sauf si Apple veut spécifiquement le faire rentrer aux États-Unis. Qu'est-ce que tu en penses, Jeff?
comme tout ce qui touche les taxes, et surtout au niveau international, avec tous les traités, les différents régimes fiscaux, etc., c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le principe, c'est de dire que tu vas payer des impôts sur les profits que tu vas faire, et non pas sur les revenus, sur les profits que tu vas faire dans les différents pays. Il va y avoir un ensemble de traités internationaux qui vont faire que tu ne vas pas payer deux fois les impôts. Mais en gros, les traités internationaux, c'est ça te ramène en fait à payer le plus. C'est-à-dire que tu regardes entre par exemple, quelqu'un comme moi, si j'avais des impôts aux États-Unis et des impôts en France, puisque bon, je suis américain, donc je paye des impôts aux États-Unis, même si je n'habite pas aux États-Unis. Mmh. Et en gros, ça m'amène à payer là où je paye le plus d'impôts. C'est-à-dire que si c'est aux États-Unis, c'est aux États-Unis que je vais payer les impôts. Si c'est en France où il y a le régime fiscal est le moins avantageux, je paye en France. Et en gros, derrière, il s'arrange entre les deux pour que tu ne payes pas deux fois.
D'accord.
Quand tu as alors pour les entreprises, c'est encore des régimes différents. Clairement, il y a des pays tels l'Irlande qui offrent des taux de taxes inférieurs au reste des pays d'Europe. Et quand ils disent que, alors je ne sais pas si c'est un régime spécial que Apple a eu, mais clairement, quand ils te font une présentation de la raison pour laquelle tu dois implémenter ou installer ta filiale européenne en Irlande, ils te mettent plus bas niveau de taxes corporate premier lieu. Puis oui. Après, c'est le fait qu'ils parlent anglais.
Oui, d'accord.
Donc, clairement, l'Irlande essaie d'attirer tout le monde chez eux pour cette raison-là. Et donc, ce que vont faire les entreprises multinationales, c'est employer des conseils, des fiscalistes, des avocats, des gens comme PwC pour optimiser leur structure corporate de manière à payer le moins de taxes possible. D'accord ?
Oui.
Alors, la question, c'est est-ce qu'ils ont été trop loin en quelque sorte en appliquant la loi, ou est-ce que les lois en fait sont trop laxistes par rapport à ce phénomène? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les ventes faites par Apple dans les différents pays tels que la France et le peu de taxes qu'ils payent, tu te dis mais attends, c'est pas juste. Mais d'un autre côté, tu vois où est-ce que les profits sont faits, et comme par hasard, ils sont tous agrégés en Irlande. Donc bon.
Mais alors, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais pour les profits faits en France, il faudrait qu'Apple paye des impôts en France. Pour les profits faits en Irlande, il faudrait qu'Apple paye des impôts en Irlande. Ensuite, savoir s'ils agrègent leurs profits européens en Irlande alors qu'ils devraient les payer dans d'autres pays européens, bon, c'est une autre question qui serait très intéressante à débattre. Mais la question de savoir si ces profits européens ils devraient payer des taxes aux États-Unis sur ces profits européens, à mon avis, c'est une question qui est un petit peu étrange et qui est motivée par le gouvernement américain qui voit que Apple est une société à la base américaine et qui veut récupérer de l'argent sur ces profits-là alors qu'ils sont faits par une société européenne en Europe. Et c'est ça qui me dérange, tu vois, dans cette histoire.
Bah, c'est il n'y a pas qu'Apple, hein.
Bien sûr. En l'occurrence, c'est une enquête sur Apple que fait le Sénat, mais.
Et tout à fait. Et c'est là, Tim Cook est apparu devant le comité du Sénat qui regarde ça au niveau Financial Services ou taxes, je sais plus. Et en gros, il a dit, Apple paye toutes les taxes qui sont dues, que Apple doit en fonction des lois en présence. Ouais. Et donc, le problème d'aujourd'hui qui est que Apple a énormément de cash, des dizaines de milliards de dollars dans les filiales européennes ou mondiales, et que in fine ils vont emprunter de l'argent aux États-Unis de manière à ne pas payer d'impôts sur cette trésorerie qui est à l'étranger, c'est effectivement, ça veut dire que le système est un peu mal foutu, mais c'est le cas de tout le monde. Cisco, c'est pareil, Google, c'est pareil.
Oui, c'est sûr. Oui. Donc bon, peut-être qu'il y aura des accords qui vont suivre entre l'Europe et les États-Unis, mais là.
Bah, bon, la question c'est est-ce que les Américains vont dire bon bah ok tu rapatries ton cash et on te taxe X%, on fait un prélèvement libératoire comme on dit, où en gros on te prend X%, tu rapatries ton cash et puis voilà quoi.
Et puis c'est terminé, a priori c'est ce qui risque d'arriver, c'est très possible. Enfin bon, c'est envisageable en tout cas, c'est des choses qui se font de temps en temps. Mais bon.
C'est lié à la structure super complexe des lois fiscales, des optimisations fiscales, sans parler des tu vois les fonds de VC européens sont tous installés sur l'île de Guernesey ou sur les British Virgin Islands parce que c'est là où ils ont un traitement de taxe le plus optimal.
Ouais.
Alors que t'as pas un seul Pékin qui est installé sur Guernesey, hein, qu'on soit clair.
Ouais, non, c'est sûr.
Bon, bah, c'est comme ça.
Non, c'est sûr. Mais si tu veux, moi, ce qui me dérange vraiment dans cette histoire, c'est le fait que les États-Unis veuillent qu'Apple, en gros, hein, pour schématiser encore une fois, qu'Apple paye des taxes sur l'argent. Paye aux États-Unis des taxes sur l'argent qu'ils ont fait en Europe. Et c'est ça qui me paraît pas logique. Ensuite, le jeu d'optimisation fiscale, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire et moi je suis tout à fait pour que Apple et d'autres hein, et se payent les taxes là où ils doivent les payer. Mais c'est juste que je me demande si Apple devrait payer, si c'est aux États-Unis qu'Apple devrait payer sur des taxes sur l'argent européen. Mais bon, il y a des développements qui ont lieu dans les semaines à venir, évidemment, on vous en parlera. Et là encore, si vous avez des commentaires à faire, on vous invite à venir les faire sur les commentaires de l'émission.
Je ne vais pas prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais je vais simplement rappeler que c'est le cas pour les individus. C'est-à-dire que quand on est américain, on est taxé sur Worldwide Income. Et donc, en tant que citoyen américain, si je vis en France, je paye des impôts aux États-Unis.
Oui, d'accord. Effectivement, oui. Bon, là, en l'occurrence, c'est deux sociétés différentes, mais on peut se poser la question de savoir si l'origine de la société devrait déterminer là où ils payent des taxes. Et c'est sûr que ça réglerait beaucoup, beaucoup de problèmes et ça répondrait à beaucoup de questions d'optimisation fiscale, oui. Bon, on avait donc ces deux sujets un petit peu plus gros à traiter essentiellement. Maintenant, on va faire une petite pause sponsor et on passe à nos news et rumeurs. La petite pause sponsor, c'est pour vous parler du fan shop No Watch. Vous savez que No Watch va bientôt fermer ses portes, malheureusement. Mais le fan shop est toujours là. Donc, si vous voulez des objets collector, c'est le moment de vous jeter dessus. Il y a un petit lien, les boutiques, en haut à droite sur le site. Et vous pouvez aller dans le fan shop. Il y a deux boutiques différentes. Vous allez dans le fan shop. Il reste encore des petits goodies que vous pouvez récupérer. Ça vous fera des collectors. Ça sera sympathique pour afficher votre amour de No Watch et le fait que vous en ayez fait partie de cette période incroyable, de cette aventure incroyable qu'on a tous vécu ensemble. Donc on vous remercie d'aller faire encore quelques emplettes sur le fan shop No Watch. News et rumeurs, petite chose un petit peu plus rapide encore. Nelly Kroes, dont on a parlé souvent et parfois en bien, parfois en mal. Il y a des gens qui se jettent sur elle parce qu'ils trouvent que c'est une sorte d'agent du mal de l'Union européenne. Je me souviens plus de son titre exact, mais c'est la présidente de la commission.
Oui, c'est la commissionnaire européenne à l'informatique, non ?
C'est ça, exactement.
Ou truc digital ou je sais pas quoi.
Voilà, c'est son titre officiel. Au truc digital ou je sais pas quoi. Oui, c'est la présidente de la commission européenne sur l'informatique et les trucs techniques. Et c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été, elle n'a pas toujours fait l'unanimité en tout cas du côté de des professionnels de l'informatique. Là, elle a un projet.
Bah attends, c'était du temps où il était en charge de l'antitrust, donc c'est pour ça.
Oui.
Il aimait pas parce que quand il l'avait aux fesses, c'était pas joyeux. Hein.
C'est sûr, mais disons qu'elle est elle a parfois été un petit peu, on va dire, du côté de l'industrie vieillissante que plus du côté de l'industrie vieillissante que du côté de l'avancée innovante, on va dire. Mais là, en l'occurrence, elle a proposé un plan. Moi, je l'ai toujours trouvé plutôt encourageante, cette dame. Elle a fait des erreurs, je trouve, de jugement, mais elle avait toujours des choses intéressantes à côté. Et là, en l'occurrence, elle propose un projet qui institutionnaliserait la neutralité du net dans toute l'Europe. Ce qui est évidemment, vous le savez, hein, moi j'en parle souvent, de la neutralité du net, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Ce qui fait, c'est la valeur qui fait que tout le monde est égal face au contenu sur Internet et que donc on a au final, au bout de la chaîne, une égalité de tous les contenus, donc que les petits font jeu égal avec les grands. Si vous faites un blog, un petit blog à vous quelque part sur le net, eh ben vous êtes aussi exposé que Le Monde ou Le Figaro qui ont leur site à eux. Ça, c'est pour moi très important. Et d'autre part, elle voudrait faire supprimer les frais de roaming en téléphonie mobile, ce qui ajouterait énormément de compétition dans l'industrie de la téléphonie mobile, sur le marché de la téléphonie mobile, et qui serait une très bonne chose.
Donc, alors ça, ce serait grandiose,
n'est-ce pas?
Et même que si elle pouvait suggérer ça aux Américains, ce serait top parce que bon.
Ah oui, ouais, vas-y.
J'en ai discuté avec deux grands de la téléphonie européenne et en gros, c'est juste un kidnapping, c'est un rip-off comme on dit en anglais.
Arnaque, quoi.
C'est une arnaque parce qu'il y a strictement aucun coût. Qui sont justifiables ou justifiés par rapport à ce roaming. C'est juste que c'est comme ça que ça marche, et tant qu'ils peuvent protéger ça, ils vont continuer parce qu'ils se font énormément de fric. Aujourd'hui, tu commences à avoir des plans. Moi, je suis sur AT&T ici, et en gros, quand je pars en Europe, je prends une option à $30 qui me donne genre 120 mégas de données, et puis je peux payer $30 pour... Parce qu'en fait, il y a les minutes... Et bon, ça coûte un peu cher, mais surtout, c'est le roaming de données qui est absolument délirant. Oui. Depuis qu'il y a ces espèces de plans packagés que tu peux mettre en place, tu peux les mettre en place, les annuler, mettre en place, les annuler, en gros, c'est devenu beaucoup plus raisonnable. Quoi.
Oui. Oui, c'est clair. Donc, c'est ce qu'elle veut mettre en place. Je crois qu'il y a ça va arriver dans quelques années de toute façon, la fin du roaming, parce que marché commun, tout ça. Mais elle voudrait les mettre en place, mettre ses projets en place en 2014 déjà. Donc bon, moi j'applaudis Nelly Kroes des deux mains.
Vas-y Nelly.
La Xbox One a été présentée il y a une dizaine de jours là aussi aux États-Unis. On va avoir beaucoup plus d'informations sur ces nouvelles consoles de jeux à l'E3 qui commence la semaine prochaine, le grand salon du jeu vidéo aux États-Unis. La Xbox One a donc été présentée un petit peu avant l'E3 et c'était une présentation vraiment centrée sur le marché américain. Donc il n'y a pas mille choses à en dire. C'était beaucoup télévision et sport. C'était vraiment des choses qui faisaient plaisir aux Américains, mais qui nous parlaient un petit peu moins.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Contre, il y a des choses intéressantes au niveau technique. La Xbox One, donc la prochaine console de Microsoft, aura trois OS. Un OS pour la partie interface et télévision, justement, parce qu'elle gérera votre télévision, tout ça. Et une partie pour les jeux, une partie qui fera la traduction entre les deux. Donc, on pourra avoir le jeu qui tourne d'un côté et regarder la télé de l'autre. Et on aura le jeu qui se réduit, on regarde la télé. On peut avoir Skype en même temps que le jeu, etc., etc. Et on a Kinect, une nouvelle version de Kinect, qui va avoir beaucoup plus de capacité et qui pourra vous comprendre un petit peu. C'est un petit peu l'Eldorado en ce moment, hein, les machines qui vous comprennent, qui savent ce que vous êtes, ce que vous faites, qui vous êtes, quand vous êtes devant la télé, pour pouvoir mieux répondre à vos besoins. Il y a des choses à la fois intéressantes et certains disent un petit peu inquiétantes. Moi, je trouve que c'est plus intéressant qu'inquiétant. Ils pourront voir Donc, si vous êtes si vous êtes telle ou telle personne et donc activez votre compte sur la console, avoir vos préférences de télé, avoir vos préférences de jeu, etc., etc. Donc, bon, une présentation qui était encore une fois centrée sur le marché américain, mais on a enfin le nom de la prochaine console, c'est donc la Xbox One, et elle devrait, si Microsoft arrive à ses fins, remplacer à la fois, bien sûr, votre Xbox existante. Et votre interface de télévision, que ça soit le câble ou le satellite ou tout ça, ça devient une boîte pour la télé aussi. On verra s'ils réussissent à faire quelque chose d'efficace dans ce domaine. En tout cas, regardez les démos techniques, il y a des choses intéressantes, quoi. On peut parler à sa Xbox, etc., etc. C'était déjà le cas aujourd'hui, mais c'est encore plus poussé. Une nouvelle qui fera plaisir à ceux qui aiment la liberté. C'est pas du tout orienté ce que je dis, mais l'Adopi, en tout cas l'abrogation de la suspension de l'accès web aura lieu en juin normalement pour l'Adopi. Donc on désagrège peu à peu l'Adopi. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs aux États-Unis aussi. Tout le monde se fait écho des informations selon lesquelles l'Adopi est démantelée, on va dire. Ça a fait un petit peu de bruit. La nourriture à imprimer, t'as vu ça, Jeff ?
Ouais, ouais.
C'est marrant comme projet, non ?
Bah, ouais. c'est marrant parce que bon, c'est intéressant au niveau technique et technologique. Le concept d'imprimer donc de la nourriture, des tissus, etc. Ça fait partie des évolutions de la médecine. D'un autre côté. Bon, bah, je sais pas si je suis super, tu vois.
Mais c'est une question. Bon, évidemment, tu vas pas aller au resto manger de la bouffe imprimée, mais si tu as, c'est très Star Trekien comme concept. Tu as différentes cartouches avec différents produits, et puis la machine va t'imprimer, en fait, pas t'imprimer, mais te fabriquer un aliment en utilisant différents produits des différentes cartouches et te faire quelque chose de mangeable. Évidemment, c'est pas comme on le disait pour aller dans un restaurant, c'est pour les gens qui, parce que ça se conserve beaucoup mieux dans les cartouches, et puis tu peux l'utiliser dans des endroits où t'as pas forcément accès à de la bouffe facilement. Ça peut être, t'imagines dans l'espace, tu vois, tu commanderas ton petit.
C'est le premier vaisseau spatial d'Elon Musk qui part sur Mars, ils auront besoin de ça, effectivement.
Ouais. Oui, oui,
parce que c'est là où ils ont de la bouffe qui a été déstructurée, où tu as juste besoin de rajouter de l'eau pour des raisons de stockage. Donc c'est dans ce cadre-là que ça peut être utile. Oui. Donc c'est un progrès super intéressant. Je suis beaucoup plus fasciné par l'évolution, tu vois, des tissus, le fait que tu puisses imprimer des mâchoires en 3D, etc.
Oui.
Bon, est-ce que ça peut permettre aux gens? Parce qu'en fait, le problème c'est ce qu'on dit pas, c'est quelle énergie il faut pour en fait déstructurer et restructurer l'alimentation. Et c'est monstrueux, quoi. C'est ça le problème.
Oui, ça, je t'avoue que je ne connais pas bien, mais je sais pas. Tu vois, tu fais un stock de protéines, un stock de glucides, un stock de tu vois lipides, et puis enfin bon, je sais pas du tout si c'est ce genre de choses qui sont séparées, mais bon. Bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a des informations sur Internet. Et hop, expédié. Foxconn, vous connaissez Foxconn, bien sûr, ils fabriquent tous les appareils de, bon, pas tous, mais une bonne partie des appareils Apple et d'autres constructeurs d'électronique en public. Il semblerait qu'ils soient en train de se mettre à développer des appareils sous Firefox. Firefox OS, vous savez, on vous en a parlé plusieurs fois, c'est un système entièrement libre développé par Mozilla. Vous connaissez le navigateur Firefox, évidemment. Il semblerait que Foxconn soit en train de développer des téléphones sous Firefox OS, peut-être même des tablettes et ce genre de choses. Alors, c'est intéressant parce que Foxconn est, comme on le disait, fabricant d'une énorme partie des produits qu'on utilise tous les jours. Il y en a d'autres, mais il y a Foxconn notamment. Et on peut se demander si ce n'est pas le chemin normal d'une société comme ça, de de commencer par fabriquer, par sous-traiter pour d'autres grandes sociétés. Et une fois qu'elles ont, d'une part, besoin de croître un peu plus, et puis d'autre part, la connaissance technique, de se mettre à fabriquer des produits eux-mêmes. Si je te pose la question comme ça, Jeff, à froid, dans 5 ans, est-ce qu'on aura des téléphones Foxconn qui rivaliseront avec nos appareils? Est-ce que c'est une marque grand public de produits de grande consommation d'avenir? Apple, Samsung, Foxconn?
En public, je pense pas, mais quand tu penses aux différents marchés dans lesquels tu peux vendre du smartphone, il n'y a pas que le marché américain, le marché européen, tu as aussi les marchés émergents, et un téléphone où Foxconn peut vraiment faire son job, qui est vraiment d'amener le prix très 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 bas, surtout dans les marchés où il n'y a pas de subsidized, où les carriers ne vont pas payer pour le téléphone. Je pense que c'est intéressant.
Les opérateurs, les opérateurs.
On verra où ça va. Mais d'un autre côté, c'est là où HTC, HTC étaient très forts, et ils sont en train de se prendre une banane. Donc bon. À un moment ou à un autre, il faut que tu fasses de la marge, quoi. Et c'est ce qu'Apple prouve en faisant une majeure partie de la marge de tout le marché du smartphone. Et quand tu regardes Samsung, Samsung fait une grosse partie de la marge du marché Android. Donc ça veut dire que le reste du marché est en train de crever la dalle sur très très peu de marge, et c'est là où les problèmes vont se pointer, quoi.
Mais tu sais, en même temps, si on regarde l'évolution du marché de l'électronique grand public sur quelques décennies, je me souviens encore, parce que je suis très vieux, et comme t'es aussi vieux que moi, voire même un peu plus, tu dois t'en souvenir aussi, il fut une époque où les produits japonais, c'était des petits trucs pas chers, justement, des entrées de gamme. Et puis, ils sont devenus un petit peu mieux. Et puis, c'était les produits taïwanais qui ont commencé à devenir des petits trucs pas chers. Pardon, des produits coréens qui étaient les petits trucs pas chers, entrées de gamme. Aujourd'hui, on est à une transition où les produits chinois commencent à devenir, à sortir de cette entrée de gamme, parce qu'ils avaient repris ce marché bas prix après les Coréens. Et donc, moi, je me demande vraiment si à terme, Foxconn ne peut pas... Bon, ils commenceront par peut-être des produits un petit peu entrée de gamme, mais à terme, est-ce qu'ils peuvent pas devenir une vraie entité de innovante et de produits haut de gamme, au même titre que les Samsung? On se souvient de Samsung à l'époque, ils étaient pas du tout, ils faisaient pas du tout des produits de grande qualité, quoi. Non?
Bah, tu as raison, mais je pense aussi que la sophistication de l'utilisateur a augmenté. Je pense que l'attente que tu as, parce que il y a un temps, il y a encore pas très longtemps en fait, où tu avais plein de petits gadgets, petites merdes qui faisaient un truc, et maintenant en fait, t'as un smartphone qui va reprendre une grande partie de ses fonctionnalités sur une plateforme qui est quand même assez évoluée.
Mais est-ce que ça veut dire que Foxconn peut pas le faire?
Non, ça veut pas dire que Foxconn peut pas le faire, mais si. Tout dépend de leur approche. Soit ils vont essayer de rentrer sur le marché avec une marque propre, en essayant d'être compétitif de Samsung, d'Apple, et à ce moment-là, ça va être rigolo de voir comment est-ce que tu peux... D'un autre côté, Samsung vend beaucoup de composants qui sont dans l'iPhone. Hein.
Bah oui, bon. c'est ça.
Donc, je sais pas comment ça va se goupiller, mais in fine, ça fait partie de... un savoir-faire de design, un savoir-faire de packaging, un savoir-faire de marketing, qui est pas du tout le savoir-faire de Foxconn.
Non, c'est sûr.
Donc c'est pour ça que je dis que si aujourd'hui tu me dis dans 5 ans est-ce que Foxconn est sur le plateau, s'ils sont sur le plateau, étant donné ce qu'ils savent faire, c'est de la masse, c'est de la marge très réduite et du mass market. D'un autre côté, je sais pas si c'est super intéressant.
Ouais. Oui, alors peut-être que je suis un petit peu optimiste en disant 5 ans, mais peut-être un petit peu plus longtemps, quoi. Qu'ils se fassent la main sur le bas de gamme, et puis enfin bon, là on commence à regarder dans des boules de cristal, on va dire.
Oui, mais c'est là où Nokia pendant très longtemps s'est encore à penser qu'ils avaient une part de marché qu'ils pouvaient défendre, où ils disaient mais regarde tous ces téléphones qui sont vendus en Afrique, Middle East, etc. Et en fait c'était en gros des devices qui avaient très 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 peu de marge, et puis surtout aucune évolutivité, où tu pouvais rien faire avec, etc. Et puis c'était en gros ils sont pointés au bord du gouffre, et puis à un moment ils ont plongé, quoi.
Ouais. Je sais pas, moi je suis un petit peu plus optimiste pour Foxconn. Je pense que ça suit un cycle qui pourrait être intéressant, mais on verra ça dans les années à venir de toute façon. Un autre truc intéressant, tiens, on parle du monde d'Android et de ce genre de choses. Acer pourrait sortir un PC. Enfin, je dis PC et j'ai mis des guillemets dans les notes de l'émission. Parce que, en fait, c'est une machine qui est un all-in-one. Donc, une machine qui a, enfin, un ordinateur qui est dans l'écran, hein, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Sous Android. Donc, c'est pas une tablette ou un téléphone, mais un véritable PC de bureau qui est sous Android pour moins de $500 qui fonctionne sur des puces ARM, donc les puces Android classiques pour les téléphones mobiles, hein, ils sont tous dessus. Je pense que pour moi, ça serait pas vraiment intéressant, ni pour toi, Jeff, mais est-ce que pour quelqu'un qui veut une machine très simple, qui veut juste faire du mail et regarder des photos et écouter de la musique, est-ce que tu penses qu'un PC sous Android, ça pourrait être une solution intéressante, surtout à un prix modeste?
Tu te rappelles cet tas de dope qui s'appelait Netbook? Bah voilà, la même chose.
Tu penses que ça serait... Oui, c'est sûr que ça manque un peu de jus, quoi.
Bah écoute, je me rappelle avoir payé $500 pour un netbook pour mon fils parce que c'était plus petit, c'était bien pour l'école, parce que machin, il pouvait taper vite et tout. Et puis bah on a claqué $500 pour le netbook et puis quelques mois plus tard, le netbook il était rétamé, il était super lent et tout, et en gros la bécane. Le problème c'est qu'aujourd'hui, étant l'expérience de l'utilisateur sur des machines relativement puissantes, t'as une certaine attente en termes de temps de réponse, en termes de tout ça, et
ouais,
Android aujourd'hui, c'est un OS qui est vraiment fait pour le téléphone, qui est fait pour les tablettes. Est-ce que ça peut scale up pour être un OS de PC? J'en sais rien. On verra. Ce sera intéressant. Ouais. Mais
Disons que là où
je serai pas le premier à l'acheter, quoi.
Ouais, je suis pas hyper optimiste non plus, mais comme j'aime toujours prendre le contre-pied de l'évidence.
De ce que je dis.
De ce que tu dis aussi, ouais. Je me dis que les netbooks, le problème, c'est qu'ils tournaient sous Windows généralement, et Windows n'était pas fait pour des machines d'un si petit gabarit. Alors que là, justement, Android est fait pour des machines de tout petit gabarit, et on a donc même avec des processeurs modestes des machines qui tournent correctement. Alors évidemment, tu fais tourner qu'une application à la fois. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Peut-être qu'ils vont faire un skin qui fera deux applications à la fois, ou Dieu sait quoi. Mais à mon avis, prendre la comparaison avec les netbooks, c'est, je suis pas sûr que ça soit exactement le même type de produit, quoi. Mais bon, maintenant le problème,
c'était la grosse daube il y a 3-4 ans. Et puis je sais pas. La notion de tu fais un truc pas cher qui est sous-dimensionné, à mon avis, c'est soit tu as un besoin de type tablette avec un clavier. Additionnel, et pour être très honnête, j'ai plein de copains qui utilisent ça comme ordinateur de tous les jours, et ils sont très très satisfaits avec cette solution. Moi, pour moi, le MacBook Air, c'est la machine ultime qui marche quasiment au bureau, en voyage, etc. Bon, bah ça coûte $2000, donc c'est pas donné. Mais tu vois, t'as ce type de machine ou de use case qui sont vraiment bien définis.
Ouais.
Et essayer de prendre un ordinateur et le cram down en termes de prix en utilisant un OS qui est pas forcément fait pour, je sais pas.
Ouais, c'est sûr que s'il y a des gens qui font la gueule à l'idée d'avoir Windows 8 avec une interface un petit peu faite pour tablette, effectivement Android ça va pas leur plaire non plus, quoi. Bon. On verra si Acer touche au succès avec cette idée audacieuse. Les problèmes des auto-entrepreneurs qui sont pas contents après les pigeons, on va pas en parler. Je voulais juste dire que le hashtag des auto-entrepreneurs qui se sont liés ensemble pour se plaindre des idées du gouvernement qui voulait en fait faire des changements qui leur convenaient pas dans le statut des auto-entrepreneurs, à dire je suis pas convaincu non plus par ces changements étant moi-même auto-entrepreneur aussi, mais le hashtag c'est piou piou. J'ai trouvé ça mignon, parce que tu vois, pigeon, et puis là, c'est des petits pigeons, donc ouais. Piu-piu, tu vois. Ok.
Je pense que c'est... Enfin, leurs revendications sont légitimes, mais un tag piu-piu, je sais pas. À un moment ou à un autre, il y a l'aspect rigolade, machin, mais tu veux être pris au sérieux aussi, quoi.
Oui, donc, effectivement. Ouais. Bon, en même temps, c'était les pigeons, ils avaient le hashtag pigeon, hein, c'était... Mais oui,
c'est vrai. Ouais, c'était la même chose. Hein.
Ouais. Oui, oui. Alors, pour info, l'un des problèmes principaux, c'est que il serait question de ramener à 10 000 euros le plafond pour une activité secondaire dans les services au lieu des 32 000 euros actuels. Et ça poserait beaucoup de problèmes aux informaticiens qui constituent une assez grande part des auto-entrepreneurs. Donc, il y aura peut-être une solution à trouver. En tout cas, il y a des discussions en cours. On aurait d'autres sujets à traiter, genre Kim.com qui a un brevet pour l'authentification double facteur. En fait, bon, pas vraiment, il y en avait d'autres avant. Il y a le tweet malheureux de Pascal Nègre qui fait de la pub sur le dos de la mort de Georges Moustaki. C'était pas hyper malin. La philanthropie chez les Jobs. On a appris que Steve Jobs, en fait, donnait de l'argent anonymement pendant des années, de l'argent à des œuvres caritatives, alors qu'il était très étrangement, ouvertement, un petit peu antagoniste de ce genre d'idée, contrairement
à Steve. C'est pas vraiment. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a toujours plus ou moins refusé de parler de son caritative, philanthropique, etc. Ce qui veut dire que les gens l'ont vu un peu comme un pixou qui s'assied sur ses 6, 8, 10 milliards de dollars. Enfin bon, bref, ils sont OK en tant que famille. Et dans les faits, Lauren Powell Jobs, sa femme, a été super impliquée depuis très longtemps dans un certain nombre d'œuvres. Balancer des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars de sa fortune sur différentes causes, mais il n'en a jamais fait la publicité, c'est tout. Et donc, c'est son côté très réservé, très, très intimiste que l'on connaît, qu'il a appliqué aussi à son œuvre caritative. La chose qui a fait un peu parler, c'est le fait qu'il a refusé de joindre le mouvement où certains milliardaires ont dit qu'ils allaient...
Le truc initié par Bill Gates.
Oui.
Ah non, c'est Murdoch, pardon.
Non, Warren Buffett.
Ah, c'était le troisième, ok.
Je sais pas si Murdoch est dedans, mais c'est Warren Buffett et Bill Gates qui ont en gros promis qu'ils allaient du temps de leur vivant distribuer la grande majorité de leur fortune, qui dépassait 100 milliards entre deux, je pense, ou en tout cas pas loin. Et ils ont été rejoints par Mark Zuckerberg, par Pierre Omidyar, et donc Jobs était contre ça. Mais c'est pas qu'il était contre, il a pas dit
ouais,
OK,
il s'est pas joint au mouvement. Ouais.
D'un autre côté, c'est pas parce que tu peux très bien distribuer ta fortune à ta façon, et je pense que c'était bien que les choses soient remises à l'heure, puisque bon, bah, en gros, comme tout le reste de son œuvre, il le fait en catimini, mais il le fait, quoi.
C'est intéressant d'ailleurs d'évoquer cette question de distribution d'argent aux œuvres caritatives, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu la culture américaine, étrangement, c'est quelque chose de très ancré dans presque le devoir social. On parle souvent des Américains comme un peuple très capitaliste et très et souvent on associe cette idée à de l'égoïsme. Et bon, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui sont pas à plaindre, mais c'est vrai aussi que il y a dans la psyché et la culture américaine. Évidemment, chez les riches, cette idée de rendre à la société ce qu'on a eu. Alors, ils rendent pas tout, hein, loin de là. Mais par contre, le fait de participer à des œuvres caritatives, je pense, et là, c'est mon estimation, est beaucoup plus une idée beaucoup plus présente chez les riches américains que chez les riches, je vais pas dire européens, mais en tout cas chez les riches français. J'ai pas l'impression que ça soit aussi, ça se fasse autant, en tout cas. Je me trompe peut-être.
Bah, si tu veux, il y a deux choses. Ils peuvent très bien le faire en catimini, parce que tu sais, t'as le problème de la relation avec l'argent des Français où si jamais tu affiches ta richesse parce que tu vas donner tu vois une dizaine de millions par-ci, une dizaine de millions par-là, en gros t'es un gros enculé parce que t'es un riche, et ça c'est un problème culturel en France où on n'accepte pas le succès des autres. Le deuxième, c'est le fait qu'effectivement aux États-Unis tu as cette vision qui est une fois que j'ai réussi, en gros c'est le moment de se retourner, de renvoyer l'ascenseur, et donc tu vas avoir un énorme attachement des Américains envers leur alma mater, donc leurs universités, leurs écoles, et tu vois une université comme Stanford va recevoir sur un budget de 2,2 milliards, ils vont recevoir facilement 1 milliard ou 1,5 milliard en donations chaque année. Chaque année.
Oui.
D'accord? Et puis après, tu vas avoir des buildings entiers qui vont être financés par des donneurs. Donc,
des donateurs.
Tu vas voir, t'as un truc d'engineering Bill Gates, t'as un autre truc d'engineering Jerry Yang, et donc, ça va être leur façon de dire merci, soit à l'université qui leur a donné l'opportunité de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui, soit en fait essayer de pousser l'innovation, la culture, l'engineering, etc., etc. Donc ça, c'est une chose. Et après, tu vas avoir effectivement une énorme participation à tout ce qui est non-profit. Un petit exemple, la semaine dernière, donc vendredi, samedi, dans la Napa Valley, il y avait la grande auction,
vente aux enchères.
Vente aux enchères, merci. La grande vente aux enchères de la Napa Valley, où en gros, tout bénéficiait, les hôpitaux, les écoles de la Napa Valley. Et en gros, il s'est vendu pour à peu près 16 millions de dollars de lots. Et c'était effectivement des caisses de pinard, c'était des expériences assez uniques qui étaient offertes par les propriétaires des grands vignobles de la Napa Valley. Et c'est une grande fête où tout le monde est là et en gros va dépenser, pour une bouteille de pinard, c'est pas, ils vont pas payer le prix, ils vont payer 10 fois le prix, mais c'est pas grave, c'est une question, c'est une fête, c'est célébré, ouais. Et c'est quelque chose d'assez unique. Pourquoi ? Alors, t'as un côté un peu m'as-tu vu ? Bon, ça c'est le côté un peu, enfin qui est pas trop sympa, mais d'un autre côté, c'est vrai que les gens vont lâcher un demi-million, un million, un million cinq pour les gamins, et c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment leur intérêt. Ils le font pas parce qu'ils sont obligés, ils le font parce qu'ils pensent que c'est une bonne cause.
C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant et peut-être que je me fais une idée un petit peu, c'est peut-être un a priori que j'ai sur la redistribution des richesses en France. Si vous avez des informations que je n'ai pas, encore une fois, je vous invite à venir nous en parler dans les commentaires de l'émission. C'est toujours quelque chose d'intéressant à explorer. Si vous savez un petit peu comment ça se passe, venez me dire à quel point j'ai tort, ça me fait toujours très plaisir. Écoutez, on va donc passer à la fin de l'émission. Tu vois, on a été un petit peu plus court, effectivement, comme je le pensais.
Oh, 53 minutes, tu crois pas?
Incroyable. Mais par contre, tu me disais que tu voulais revenir un petit peu sur l'épisode où tu étais, le dernier épisode où tu étais, où on parlait justement des affaires gouvernementales. C'était l'épisode 110. Et on avait parlé notamment de l'affaire Yahoo Dailymotion gouvernement français, qui a fait pas mal parler dans les commentaires de l'émission. Et tu voulais revenir dessus. Alors, je t'écoute. Tu as le micro, tu as la parole.
En fait, deux trois commentaires, puisque j'ai pas vraiment eu le temps d'interagir avec les gens qui ont pris le temps de nous laisser ces commentaires. Donc le premier, c'est quelqu'un qui m'a attaqué en direct sur le fait que j'arrête pas de mettre des mots d'anglais quand je parle. Et je suis désolé, mais c'est comme ça. Je pense en anglais, j'essaie de traduire en français le mieux que je peux. Donc c'est comme ça. Le deuxième, c'était sur l'utilisation du terme franchouillard.
Ça a pas choqué les gens, mais
si, ça a choqué. Je pense que j'étais assez content en fait de voir la réaction, parce que c'est une question d'honneur, et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens se soient sentis un peu attaqués, mais le principe c'est ça, c'est de dire qu'est-ce, dans un monde, dans une société globale, dans un monde de l'informatique globale, dans l'internet global, qu'est-ce que veut dire une réaction complètement fermé du gouvernement français qui dit je veux protéger ma pépite, je ne veux pas en gros lui donner accès à cette opportunité globale. Et c'est cette réaction là qui était franchouillarde. D'un autre côté, je veux pas dire que tous les entrepreneurs français qui développent une opportunité essentiellement focalisé sur la France, sans franchouillard. Non, c'est un choix de stratégie que je respecte et c'est celle qui leur est propre. D'un autre côté, sur Dailymotion, ce que je trouve complètement regrettable, c'est que, on en a parlé, ça donne une super mauvaise image de la France en tant que un endroit où tu peux aller investir, parce que d'un seul coup, t'as une opportunité, le gouvernement te bloque ta sortie. Quand tu as des gens qui ont une opportunité globale, de se faire racheter par un Américain, la première chose qu'il te dit, c'est « Oh, bon, on va perdre des jobs ». Non, éventuellement, peut-être qu'il y a des gens qui auraient été transférés aux États-Unis, il y a des gens qui auraient eu la chance de travailler avec des Américains. Je veux dire, ça aurait complètement ouvert leur perspective. Et c'est ça dont l'écosystème français a besoin. C'est avoir une perspective de comment tu construis une boîte multinationale, comment tu construis un géant de l'Internet qui aujourd'hui, on en a un ou deux exemples en France et c'est tout. Donc c'est un peu dommage. Et enfin, dernière remarque, il y a des gens qui m'ont dit « mais de toute façon, c'était pas un bon deal, c'était débile ». Eh ben, peut-être que c'était un mauvais deal de racheter Dailymotion pour 300 millions. Et si on a envoyé
Tu veux dire que c'était un mauvais deal pour Dailymotion?
Peut-être que c'était pas le bon prix. Peut-être que Dailymotion vaut plus que ça. Ouais. Et si on avait envoyé péter Yahoo en disant c'est une offre qui est trop basse, allez vous faire et on va essayer de trouver une meilleure offre, ça aurait été complètement différent. Ça aurait été en fait la réaction a été tout à fait légitime. C'est le fait que on a dit non, l'offre est très bien, était bien. On veut juste pas vendre aux Américains, on veut pas vendre 75% aux Américains, on veut pas du contrôle, qui a été super mal interprété.
Mais alors, qu'est-ce que tu réponds ? Il y a des gens aussi qui disent, je suis pas tout à fait d'accord, mais il y a des gens qui disent, c'est important d'avoir des sociétés comme ça en France et de les garder en France, parce que si on la vend à Yahoo, finalement, ça devient une société américaine et du coup, on se retrouve, tu vois, on baisse notre pantalon et on n'a plus cette société qui réussit. C'est plus une société française. Qu'est-ce que la France a y gagné finalement dans cette histoire si on se fait
C'est ce que ma perspective, c'est que c'est non pas un problème, c'est une opportunité de prendre Dailymotion et de lui donner une distribution. C'est ça le terme principal, c'est distribution. Capacité à accéder à plus de 500 millions d'utilisateurs qui sont aujourd'hui sur Yahoo.com et au travers de ces différentes propriétés. Donc ça, c'était clairement prendre ce joyau français et le mettre un peu partout. Et donc, le fait que c'est une boîte française qui a été créée par des Français, Yahoo va pas payer 300 millions et virer tout le monde. Faut pas déconner. Ils sont pas débiles. Ils ont été payés pour Tumblr. Ils vont pas virer tout le monde chez Tumblr. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de voir comment tu peux t'intégrer. Ça veut dire qu'il y a des managers de Yahoo qui seraient venus à Paris. Ça veut dire qu'il y a des gens de Paris qui seraient partis en Silicon Valley. Il y aurait eu des échanges. Peut-être qu'il y a certains jobs à la marche qui auraient disparu, mais grosso modo, le bénéfice aurait été énorme. Et de toute façon, comme il fallait grandir Dailymotion, ça veut dire faire grandir les équipes aussi. Donc, je voyais essentiellement qu'un bénéfice. Ouais. Et je pense pas que les fondateurs ou les dirigeants de Dailymotion le voyaient autrement.
Ouais. Bah écoute, en tout cas, ça aura fait bouger un petit peu les choses parce qu'il semblerait qu'Orange ait projeté d'investir au moins 50 millions dans Dailymotion pour permettre justement ce développement à l'international.
Et c'est super, mais d'un autre côté, c'est rien. Ouais. Au sens que quand tu vois l'argent que Google met dans YouTube, je veux dire 50 millions, ils vont mettre, enfin je sais pas quel est le burn de Google sur YouTube, mais ça représente que dalle.
À vrai dire, pour moi, la manière dont j'analyse la situation, c'est surtout que c'est pas tant d'argent dont ils ont besoin Dailymotion, ou en tout cas, bon, c'est bien, hein, mais c'est pas ce qui les aurait aidés, c'est le fait d'avoir accès à tout le public de Yahoo qui aurait été une opportunité importante. Donc
distribution.
Bon, bref, on va pas refaire le débat sur Dailymotion et Yahoo, mais c'était tu voulais revenir dessus, donc voilà, c'est fait. Et c'était effectivement des conversations très intéressantes qui ont eu lieu sur les commentaires de l'émission. Et ce qui me fait toujours extrêmement plaisir, toujours dans le respect et la bonne humeur, c'est pas évident quand on se parle sur Internet par commentaires interposés de rester respectueux. Et là, c'est toujours le cas dans nos commentaires, donc je l'apprécie vraiment. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il m'avait trouvé... c'était sur l'épisode, sur l'autre épisode, qui m'avait trouvé objectif et non partial. Donc ça m'avait fait très plaisir aussi. Eh bien écoute, on arrive à la fin de l'émission. Merveilleux.
Et en temps.
Et en heure, excellent. On va juste vous dire que la semaine prochaine, avec nos petits camarades d'Upload, je vais faire un live sur la WWDC, donc la conférence d'Apple pour les développeurs, où vont sans doute être présentés peut-être des nouveaux Mac Pro, mais en tout cas iOS 7, donc on va voir ce qu'il nous réserve avec le nouvel OS pour iPhone et iPad. Il y aura aussi sans doute une nouvelle version de macOS qui sera présentée. Ces deux versions seront entièrement reprises en main par Johnny Ive, qui était jusqu'à maintenant celui qui designait le matériel. Donc là, il s'attaque au logiciel. On l'attend un petit peu au tournant parce que Apple s'est un petit peu endormi, selon l'avis général, ces derniers temps. Donc on a hâte de voir ce qu'il va nous sortir. Et puis, bah écoutez, on arrive donc, comme je le disais, à la fin de l'émission. Jeff, est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent te retrouver quelque part sur Internet ?
Ouais, s'ils veulent entendre, c'est essentiellement en anglais, twitter.com/Jeff et facebook.com/JeffClavier.
Super, et pour ma part, bah, vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux dans les notes de l'émission, donc vous pouvez les retrouver là-bas. On vous remercie tous de nous écouter et on vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode, dans une semaine pour le live de la WWDC, c'est le 10 à 18h30, 19h sur NoWatch.net, et donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Merci à tous, ciao ciao.
Salut à tous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.